Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous. Je vois qu'il y a déjà du monde, même si on n'est que mercredi matin, c'est très bien. Donc, pour ouvrir cette première table ronde sur le thème des jeux vidéo, je suis en compagnie de Michael du studio Miclo, de Jeanne du studio Spiders et de Alain du studio nantais Alchemy. Et nous allons parler donc du corps en jeu. Alors, il y a plein de façons d'aborder cette thématique. On va essayer de pas trop aller sur le champ de la conférence qui sera sur l'avatar, le personnage de jeu vidéo qui est représenté comme l'avatar de tous les clichés potentiels. Donc ça, c'est une thématique qui est très riche également, mais du coup on va s'en libérer un peu et plutôt aller chercher sur tout ce qui va être la représentation éventuellement des corps dans les jeux, mais aussi la prise en compte du corps des joueurs dans les jeux, avec notamment du travail d'Alchemy sur des jeux qui utilisent le corps comme contrôleur, et puis dans l'écriture et tout ça, la façon dont on prend en compte la composante du corps. Alors, peut-être que je vous laisser quand même vous présenter 5 minutes, très rapidement, votre travail et votre approche du jeu vidéo.
Alors, bonjour. Bonjour, je suis Michael Péfer, directeur créatif de Miclo Studio. On a fait entre autres un jeu d'exploration spatiale qui s'appelle Out There, et qui est sorti sur mobile et PC. Et aujourd'hui, on travaille sur un jeu d'espionnage qui s'appelle Sigma Theory.
Je m'appelle Jeanne Rousseau, j'ai créé le studio Spiders il y a 10 ans, et ça fait 20 ans maintenant que je travaille moi dans le jeu vidéo. Je suis passée par un peu tous les postes possibles, j'ai été graphiste, j'ai été game designer, j'ai été producer, et maintenant je suis directrice de studio et auteur. Nous on développe surtout des RPG chez Spiders, sur PC et console.
Voilà, et donc Alain Puget, directeur créatif du petit studio de jeu Alchemy. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je viens plutôt avec une autre casquette, parce que les expériences que je vais présenter aujourd'hui ont été pas forcément réalisées dans le cadre d'Alchemy, mais dans le cadre d'une autre société avec laquelle je suis associé, qui s'appelle Biborg, et qui est un studio créatif parisien qui est plutôt orienté d'habitude publicité, mais qui par moment fait aussi du jeu vidéo. Et donc c'est plutôt en tant que technical artist et directeur technique de Biborg que je viens parler, présenter les projets qu'on a pu faire dans ce domaine.
On peut peut-être d'ailleurs commencer par ça pour réveiller un peu l'auditoire. Tu veux présenter un des deux projets ?
On peut présenter la vidéo motion si tu veux. Alors, donc ouais, comme je vous le disais, en fait, au-delà de mon travail chez Biborg, en fait, je travaille avec un studio de création visuelle parisienne qui s'appelle Biborg, qui habituellement sévit dans le domaine de la publicité, et de la publicité plutôt dans le domaine de l'entertainment et du jeu vidéo, du cinéma, des séries télé. On a participé en avril dernier à un festival de motion design à Nantes qui s'appelle Motion, c'était la deuxième édition. Et à cette occasion, en fait, on a créé une expérience interactive qui avait pour but d'être déployée sur une salle et d'être jouée en public. Alors nous, vous verrez dans les deux exemples que je vous présente aujourd'hui, on a tendance à essayer de travailler en fait le jeu vidéo en utilisant le corps et en favorisant en fait les interactions entre les gens. Donc là, le Motion Playground, l'expérience qu'on a fait pour Motion, c'est rien d'autre que le concept du Pong repris avec un contrôleur, en fait, un capteur de mouvement. Alors en l'occurrence, là à l'époque, c'était Kinect qui était utilisé. Maintenant, on utilise aussi d'autres capteurs équivalents. Et donc le but de ces expériences, celle-ci et l'autre qui va pouvoir vous être montré, c'est on essaye en fait de créer des expériences interactives intéressantes, amusantes, jolies, et qui ont pour but de créer du lien, de faire un peu passer au second plan les aspects numériques. L'utilisation du corps comme... Oui, désolé, j'avais pas la même coupe de cheveux là. changement brutal. Oui, donc le but, c'est de faire que le numérique s'efface un peu au profit de l'interaction, de la communication entre les gens, de l'interaction entre les gens. Donc l'outil, les outils, les capteurs de mouvement type Kinect et consorts, maintenant il y a la Astra, enfin il y a plein de marques différentes de capteurs, qui permettent de servir de contrôleur, enfin de transformer le corps du joueur en contrôleur, de faire un peu oublier qu'on est en train de jouer à un jeu vidéo avec un contrôleur, un device dans les mains. Et nous, on essaye de travailler en tout cas des expériences qui vont plutôt se jouer à plusieurs, plutôt se jouer en public. Donc que l'interaction elle-même, que le jeu lui-même devienne une espèce de spectacle. C'est vraiment le fait d'utiliser le corps des gens comme contrôleur, mais aussi comme support visuel pour les spectateurs qui sont autour. Et de créer de la convivialité, du contact entre les gens qui sont en train de jouer ou qui sont en train de regarder l'expérience. Donc c'est vraiment dans cette optique-là qu'on crée ces expériences-là. Donc là, la deuxième expérience qui est passée en vidéo, là, c'est quelque chose qu'on a fait pour la Saint-Nazaire Digital Week, il y a un mois. Alors c'est une collaboration dont on est assez fiers, parce qu'en fait, on a pu travailler avec le compositeur musical Vincile, qui est du coin et qui a très gentiment accepté de travailler avec nous sur ce projet. Et donc on a créé une expérience ludique. Alors, en gros, pour Suite of Sound, cette expérience-là, c'est une sorte de guitare héros qui joue avec le bassin, où en fait, on doit valider nos notes en bougeant le bassin et donc techniquement en dansant en rythme, et où on utilise la musique comme support pour faire bouger les gens, les faire interagir avec le jeu. Et encore une fois, c'est une XP qu'on voulait jouer à deux joueurs sur une scène devant un public, entre guillemets, et de créer quelque chose, une interaction entre les gens.
Ok, donc merci. Donc ça, vous avez pu voir effectivement la partie utilisation du corps vraiment comme contrôleur. D'ailleurs, à ce propos, il y a en salle G, à l'étage sur la mezzanine, une expérience aussi qui se fait où on joue avec un clavier, donc on est plus... acteur, non pas avec un contrôleur classique, mais physiquement avec un programme numérique. C'est une expérience qui a été mise en place par le studio Makebird, qui est en fait le nom d'artiste de Tatiana Videla dos Santos, qui n'est pas là malheureusement sur ses utopias parce qu'elle est en voyage, mais qui est spécialisée justement dans l'utilisation, enfin dans la mise en place d'interactions et de choses, d'objets vidéoludiques ou proches du jeu qui mettent en jeu le corps littéralement. Je vous encourage à aller voir son site internet. Cette conférence est interactive. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser pendant qu'on discute. Vous levez la main. On ne va pas attendre la fin pour prendre les questions. Et en attendant qu'un micro arrive là, moi j'ai une question pour Mickaël et Jeanne sur justement par rapport à tous ces contrôleurs ou le fait d'utiliser tous les contrôleurs type Kinect, Wiimote et autres de contrôleurs qui mettent le corps en jeu. Est-ce que déjà en tant que joueur, ça vous a touché à un moment donné dans votre cursus de joueur, et en tant que concepteur de jeu, est-ce que ça vous a attiré, est-ce que vous avez fait des expériences dans le domaine ou pas du tout?
Alors effectivement, quand la Wii est arrivée, ça a été une petite révolution, parce que ça ramenait ce genre de choses à la maison. Ça existait déjà, en fait, il y avait déjà ce genre de choses dans des installations, mais c'était des choses qui étaient par contre assez difficilement accessibles avant dans les maisons, et on pouvait avec les devices qui étaient fournis avec la Wii intégrer effectivement du mouvement. Ça a demandé en termes de gameplay de se poser plein de questions. C'était très très intéressant, et c'est quelque chose que je trouve assez passionnant. Mais il se trouve que la Wii était une console Nintendo, et comme toutes les consoles Nintendo, elle est surtout faite pour vendre des jeux Nintendo. Et donc finalement, en tant que développeur, et dans la mesure, il faut bien qu'on mange aussi un moment, c'était, je pense, beaucoup plus une sirène réellement une plateforme intéressante, dans le sens où, hélas, ça l'a tué un certain nombre de développeurs qui ont voulu aller dessus et qui, bon, pour des raisons économiques, ont dû fermer leur studio à cause de ça. Donc nous, on a été, on va dire, relativement prudents. On a regardé ça avec intérêt de loin, mais on n'y est pas allé. Par contre, on travaille avec le Kinect. On n'intègre pas directement dans nos jeux parce que bon, un RPG de 35 heures où on doit courir, taper, c'est fatigant et juste chiant en fait. Mais on l'utilise par contre nous en interne pour faire de la mocap réduite pour sur certaines cutscenes, sur certains dialogues, etc. En fait, on mocap certaines choses avec un double Kinect. Donc en fait, indirectement, techniquement, on utilise ces machines-là pour le remettre dans le jeu derrière, mais c'est pas quelque chose effectivement qui est directement accessible aux joueurs en termes de mécanique de jeu. Mais honnêtement, j'ai tendance à penser que ce soit effectivement la mécanique de capture du corps. Les jeux de danse, il y en a quand même, ça existe depuis longtemps. Enfin, moi, je me rappelle de Parapaz the Rapper que j'aimais beaucoup par ailleurs. Des jeux effectivement musicaux, on a commencé à avoir des guitares, des batteries, des machins, enfin divers et variés, qui effectivement du coup mettent le corps en jeu, qui devient un élément de gameplay. On peut même penser à certaines bornes d'arcade qui intégraient aussi des mouvements qui étaient beaucoup plus complexes que de se contenter d'appuyer sur deux boutons. Donc je pense que c'est quelque chose qui est arrivé il y a longtemps, qui s'est développé, surtout qui est rentré dans les maisons des gens. Et en ça, c'est extrêmement intéressant. Maintenant, c'est pas pour autant que c'est... Enfin, qu'on a fini cette évolution par rapport à ça, et je pense que ça va de plus en plus effectivement se développer, probablement aussi permettre effectivement des interactions entre les gens et pas seulement entre le joueur et le jeu. Et donc, je suis plutôt curieuse de voir tout ça et envie aussi de voir tout ça.
Miguel ?
Ouais, alors moi, je suis un gros fan du Guitar Hero, et j'ai arrêté. Mais moi, ce que je trouve intéressant justement avec tout ce qui utilise des objets ou des interactions avec le corps et le jeu vidéo, c'est que le spectacle ne se passe plus vraiment dans l'écran, mais en dehors de l'écran. En fait, les gens regardent le joueur. Par exemple, avec Laoui dont tu parlais, ce qui est intéressant, c'est que ça a ramené la famille autour du jeu vidéo.
Ça n'a pas duré longtemps.
Oui, mais après, je ne veux pas prendre en considération les facteurs économiques. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on sort le jeu de l'écran. Et pour moi, l'écran, ça a toujours été la frontière, en fait, enfin, une espèce de frontière, une limite qu'on ne peut pas dépasser dans le jeu vidéo. Je pense que quand on n'aura plus d'écran dans le jeu vidéo, ce sera vraiment génial, quoi. Ce sera le futur. Il y a déjà eu des expérimentations comme Johann Sebastian Joust, si je me rappelle bien. C'était un jeu un peu expérimental qui a tourné un peu à l'IGF il y a quelques années, où en fait, tous les joueurs avaient une manette de PlayStation avec la boule qui s'allume, je ne sais plus c'était lesquels PlayStation. Et en fait, c'était un espèce de jeu de combat, il ne fallait pas bouger. Enfin, bref, c'était assez expérimental et ça a très bien marché parce que c'est un peu comme quand on joue à Twister, voilà, où en fait, le spectacle, c'est les joueurs, en fait, c'est le corps, c'est ça qui est vraiment intéressant dans l'interaction. Qu'est-ce qui m'a vraiment excité dernièrement? C'est Oculus m'a envoyé un de leurs casques de réalité virtuelle. Je l'ai testé et je fais ouais, ok, c'est cool. Je tourne ma tête, c'est bien, c'est sympa. Et après, ils m'ont envoyé les manettes, en fait, les deux manettes, ils appellent ça, je sais plus trop quoi. Mais bon, bref, ça détecte nos mains dans le jeu. Et en fait, là, ça change complètement la réalité virtuelle, puisque enfin, on a vraiment une présence physique dans le jeu et on peut prendre des objets. Un jeu comme Job Simulator, c'est vraiment génial parce que je trouve qu'ils ont vraiment poussé le concept au maximum, où il y a des interactions dans tous les sens. On interagit avec les objets, on prend une bouteille de champagne, on l'ouvre, on verse dans un verre, on boit le verre, on mange un donut, on ouvre la caisse, on met les sous dedans. C'est infini le nombre d'interactions qu'on peut faire rien qu'avec ces deux contrôleurs. Parce que sans ces contrôleurs, je pense que la réalité virtuelle n'a vraiment pas d'intérêt. Et voilà, ce qui est bien, c'est qu'avec la réalité virtuelle, il n'y a plus vraiment d'écran, puisque partout où on regarde, on a le jeu. Mais en même temps, on est complètement isolé.
C'est l'anticorps, en fait, justement.
Ouais, c'est ça.
C'est ça qui est terrible, c'est qu'on ramène le corps dans le jeu et en même temps, on est complètement désincarné, en fait.
C'est ça. Et bon, bien sûr, le online va se développer, mais pour moi, la réalité virtuelle, ce sera vraiment bien quand déjà on n'aura plus un gros casque sur la tête qui pèse 3 tonnes. Ce sera juste des petites lunettes qu'on met. Et qu'on sera moins déconnecté de la réalité, même si c'est quand même intéressant de se couper.
Il y avait une question. On n'entend pas, il faut peut-être mettre le micro plus près de la bouche ou qu'il soit allumé.
euh, En fait, si le corps peut être une manette, certainement dans un futur proche, bah, par exemple, si on partir des lunettes, c'est l'exemple des lunettes en fait. S'il y a des jeux qui sont comme en réalité augmentée avec le corps, si je prends un exemple, si le corps en fait ça devient une manette carrément, où les, en fait, lors de certains jeux en réalité augmentée, si j'imagine un exemple, bah, ça veut dire que des éléments en fait, du jeu, en fait, si c'est inventé par tes studios, bah, c'est comme avec la réalité, bah, c'est comme une réalité augmentée. Il y aurait une application, si je me rappelle bien, c'est Pokémon Go. En fait, on utilise... c'est vrai que c'est une application qui peut avoir une partie réalité augmentée parce qu'on a une image en fait. Comme on a... si on met en mode réalité augmentée, en fait, on a comme une image avec le téléphone. On a le Pokémon qui apparaît dans la réalité. C'est un peu truc réalité augmentée en fait. C'est peut-être pas bon. C'est un peu une question que j'ai un peu imaginé en fait. La thématique. Ouais, d'accord.
Ok, mais c'est vrai que on peut ramener le. Le corps du joueur dans, le, dans la réalité virtuelle, mais on peut aussi faire sortir les corps des protagonistes du jeu dans la réalité avec la réalité augmentée. Effectivement, Pokémon Go est intéressant à ce niveau-là.
Et où d'une le corps participe du coup aussi, puisqu'on voilà, se déplace. Enfin, il y a tout le l'idée dire, de, se, de se déplacer, d'aller ouais. chercher un objet. Alors maintenant, on peut faire la même chose avec Jésus. Je trouve ça quand même assez rigolo aussi. Donc, effectivement, là, pour le coup, on est mobile, on va chercher... à certains endroits et du coup on est effectivement acteur aussi avec son corps et pas seulement dans le cadre du téléphone donc ou du support quel qu'il soit, donc c'est effectivement enfin la réalité augmentée est aussi une des possibilités et des pistes d'exploration sur effectivement l'interaction entre le corps et le jeu. Ça se fait de plus en plus aussi lié à certains endroits précis. J'ai le souvenir d'un projet qui était assez intéressant qui avait été plus ou moins mis en place je crois par la mairie de Paris ou quelque chose comme ça où en fait on arrivait sur la place qui se trouve devant Notre-Dame et on avait la possibilité, alors il y avait un peu de narration, c'était assez limité, mais par contre de voir en fait en passant le téléphone comme ça, à quoi ressemblait le chantier de la cathédrale et toute la place, en fait, comme si, à l'époque, donc vraiment au moment de sa construction, en regardant à travers son téléphone. C'était assez amusant. Ça fonctionnait pas mal, honnêtement, pour avoir testé le truc, c'était assez chouette. Alors bon, là, c'était, on va dire, une petite attraction touristique, mais finalement, il y avait vraiment cette idée en se déplaçant et en déplaçant le téléphone, de revoir ou d'être capable de voir des petites scènes qu'ils avaient recréées comme ça, avec des ouvriers, avec des architectes, etc. Et de voir le chantier, c'était assez intéressant, en fait.
Et Alain, là, avec Alchemy et Biborg, le côté réalité augmentée, justement, je sais que vous l'avez un peu exploré. Est-ce que, déjà, comment vous l'appréhendez par rapport à la place du corps? Et par ailleurs, est-ce que ça te donne envie plutôt de faire des jeux, plutôt que des vrais jeux un peu plus... ou quel type de jeu on peut faire avec, en fait?
Alors, la réalité augmentée, ouais, nous, on l'utilise pour nos clients. En fait, on utilise pas mal la technologie mise en place par Facebook. Alors, en fait, qui est Facebook qui a rattrapé un peu son retard sur Snapchat avec les lens, les fameuses lens Snapchat qui vous rajoutent des oreilles de lapin, qui vous font des yeux gros comme ça ou qui échangent votre visage avec celui de votre gamin et qui créent des images extrêmement creepy. Et donc Facebook a lancé une technologie il y a 2 ans à peu près équivalente de celle de Snapchat, alors avec des choses qu'elle fait mieux que Snapchat, des choses qu'elle fait moins bien que Snapchat, mais les deux se tirent la bourre, les deux développent à fond ces outils là donc nous on développe par exemple dans le cadre de Biborg pour nos clients des ce qui sur Facebook s'appelle des effets de caméra pour faire la promotion de certains jeux vidéo ou de certaines séries. On a travaillé très récemment là, pour la sortie du dernier Assassin's Creed Odyssey. On a travaillé sur deux effets de caméra sur Facebook. En fait, quand on tient le téléphone près de soi et qu'on se filme en selfie près de soi comme ça, en fait, on a le casque du héros ou de l'héroïne qui s'affiche sur notre tête. Et quand on recule la caméra comme ça, j'aurais pu amener une vidéo d'ailleurs de ce projet-là, en fait, plutôt que d'avoir le casque sur notre tête, en fait, on injecte le visage de la personne dans un espèce de visuel du jeu, avec en fait on reprend le key art, le visuel principal du jeu, avec un personnage un peu animé qui suit les mouvements de la tête de l'utilisateur, mais où on incruste la photo réelle de la personne. Donc, et on joue comme ça sur la transition du j'ai une partie du jeu sur ma tête à je tends mon bras et fluidement on a une transition vers en fait c'est moi qui suis dans le jeu. Donc ça c'est voilà, c'est juste le truc rigolo pour l'anecdote. Ça, c'est un gadget, c'est pas vraiment un jeu, mais ça permet aux gens de se filmer, de créer des images ou des vidéos rigolotes et de les partager. Donc accessoirement de faire parler du jeu, si l'on a vraiment besoin. et du coup, on travaille sur beaucoup de projets de ce genre-là pour avoir des projets ou des objets numériques à manipuler, et on commence en interne et on est en réflexion avec certains clients ou certains partenaires à développer des expériences ludiques un peu plus riches, un peu plus complexes, qui utilisent la réalité augmentée. Là, nous, on commence tout juste un projet, dont je ne peux pas forcément trop en parler, mais justement de jeux narratifs avec une très forte composante en fait, de réalité augmentée. Qui va nous permettre en fait de la même façon qu'il y a des jeux comme Lifeline ou Bury Me My Love, Enterre-moi mon amour, qui sont des jeux qui essayent de brouiller les lignes entre la réalité et le jeu vidéo. C'est des jeux où en fait vous échangez, vous interagissez, vous recevez des messages des protagonistes du jeu comme si vous receviez des SMS sur votre téléphone. Et donc les messages peuvent arriver de façon un peu continue comme ça pendant une période, puis s'arrêter parce que la personne est occupée, elle fait autre chose, et puis vous notifie plus tard que vous avez un nouveau message. Et voilà. Et donc on est en train de commencer à travailler sur un projet un peu plus ambitieux de ce genre-là, qui mélange ce type de gameplay avec des passages en réalité augmentée pour encore plus mélanger jeu et réalité.
Je sais que c'est aussi un domaine dans lequel Eric Viennot a développé énormément de choses. Donc le développeur et créateur de jeux comme In Memoriam, par exemple, qui déjà à l'époque, et ça remonte pourtant il y a un certain temps, justement brouillait déjà les limites entre la réalité et le jeu lui-même, où on recevait des coups de fil, des messages, etc. Pendant le jeu, et c'était quelque chose d'assez, à l'époque, d'assez innovant. En fait.
Nous, en fait, on fait un peu l'inverse, parce que je trouve que la réalité augmentée, ça reste encore un peu gadget, comme tu disais. Et c'est vrai que c'est bien adapté pour tout ce qui est événementiel, pour ce genre de choses. Nous, on fait des jeux sur mobile, sur PC, souvent pour un joueur. Et en fait, nous, ce qu'on essaie, c'est d'injecter de la réalité dans nos jeux. Par exemple, dans notre jeu d'espionnage Sigma Theory, on a des phases d'exfiltration où il faut guider son espion pour s'exfiltrer d'une ville. Et en fait, ce qu'on expérimente en ce moment, c'est avoir les vraies rues et les vrais bâtiments des villes dans lesquelles le jeu va se passer. Parce que la plupart des jeux vidéo où on est dans des villes qui existent ou fictives, forcément, il n'y a pas tous les quartiers, il n'y a pas toutes les rues, il n'y a pas tous les... Et je trouve pouvoir vraiment jouer... Enfin, nous, c'est un jeu très réaliste, on essaie d'être réaliste au plus possible. Donc, pouvoir jouer dans une ville où on a les vrais noms de rue, où l'espion te dit là, je suis rue de la paix, quel est mon itinéraire, etc. Je trouve que ça implique beaucoup plus le joueur et ça, c'est beaucoup plus immersif. Et on a aussi un autre jeu qui s'appelle Antioch, qui est un jeu de fiction interactive, mais online. Où en fait, comme tu parlais tout à l'heure de ces jeux où tu discutes comme Bury Me My Love, là en fait, on discute avec une vraie personne qui est un autre joueur. Et on a des réponses préenregistrées que le joueur sélectionne, qu'on reçoit, et après on réagit et on crée une histoire comme ça. Et voilà. Donc c'est vraiment l'inverse de réalité augmentée. Nous, on essaie d'injecter de la réalité dans nos jeux qui sont complètement fictifs.
Vous l'avez aussi un peu fait avec les visuels de Sigma Theory, non ? Injecter de la réalité dans le jeu.
Oui, parce que tous les personnages du jeu sont inspirés de vrais visages. Donc notre artiste, Benjamin Carré, il a vraiment un secret pour faire ça. Il mélange plusieurs visages qui existent et crée des nouveaux personnages. Et il a aussi fait des personnages directement avec les portraits de moi, enfin de toute l'équipe. Et bon, ça, c'est plus un clin d'œil, mais c'est rigolo.
Après, je pense que dans tout développement, on ramène du réel de toute façon. Même nous, sur des univers complètement fictifs, on a une part d'inspiration historique qui est forte. On a travaillé avec des costumiers, notamment, qui sont des historiens du costume, pour avoir autant que possible des choses qui vont être réalistes. Je pense, enfin, même si c'est un sujet que je trouve passionnant, je pense qu'on sort un peu du thème réel, effectivement, du corps dans le jeu et de la place du corps dans le jeu. Ça serait une autre conférence, en fait, presque.
Tout à fait. Mais ceci dit, c'est pas intéressant ce que tu dis sur le fait d'utiliser des costumes, etc., des références pour les visuels, pour l'utilisation, enfin, pour ce qu'on met en jeu en termes visuels et techniques, même son d'ailleurs. Mais justement, pour ça, est-ce que les corps, par contre, qu'on voit dans les jeux manquent pas peut-être de références? Est-ce qu'on ne voit pas toujours les mêmes, quels qu'ils soient? Je ne parle pas forcément du personnage principal, mais des personnages qui peuplent les univers. Alors je sais que sur Drifting Lands, par exemple, vous avez fait un travail pour avoir des personnages qui sont moins archétypaux que ce qu'on voit d'habitude.
Ouais, c'était une consigne que j'avais donnée à notre illustrateur, en fait, de faire des personnages un peu moins archétypaux, un peu... pas que des physiques parfaits et d'avoir plus de mélange, voire des gens qui sont physiquement peut-être moins avenants, même chez les héros, enfin, ou chez les gentils entre guillemets, et donc de travailler comme ça pour avoir une représentation des corps et des sexes et des ethnicités un peu plus variées. Alors même si c'est un jeu avec un casting de personnages assez limité, quoi. Donc, mais c'était une des choses vraiment importantes quand on a créé l'identité du jeu.
Et l'objectif pour toi, quand tu prends cette direction artistique-là, est-ce que c'est uniquement d'un point de vue, je ne sais pas moi, pour retransmettre quelque chose, une atmosphère plus réaliste, en mettant effectivement une représentativité plus forte dans les différences des différents personnages, ou est-ce que c'est aussi une idée derrière de parler à plus de gens de l'autre côté, par rapport aux joueurs, de sembler moins excluant en mettant tout le temps les mêmes personnages parfaits.
Dans mon cas, et je parle vraiment que pour moi, c'est un tout, en fait. Enfin, c'est une façon de pas participer à la promulgation d'idées ou de stéréotypes trop marqués. Alors sans en faire non plus un cheval de bataille ou quoi, parce que c'était pas du tout le propos du jeu ou voilà quoi. Mais d'avoir effectivement d'être plus inclusif pour une communauté de joueurs quelle qu'elle soit. Enfin, il y a tout un tas de raisons esthétiques, artistiques, sociologiques, si on veut, de principe. Enfin, il y a plein de raisons qui font qu'on a fait ces choix-là. Et après, d'autres, suivant les studios et la taille des studios et les impératifs commerciaux, il y a des enjeux qui sont pas les mêmes. Donc, il y a des décisions qui sont pas forcément qui sont pas pris de la même façon, quoi. Nous, on a cette liberté là entre guillemets en tant qu'indépendant de pouvoir faire un peu ce qu'on veut et pour les raisons pour lesquelles on veut, mais en payant le prix, hein, de d'avoir des jeux, on n'est pas particulièrement on n'a pas énormément de succès avec nos jeux ou quoi, donc on cherche pas à satisfaire à une attente ou une demande particulière à ce niveau là
Et du coup, sur vos jeux, pour le coup, ou peut-être notamment Gridfall ou même les précédents. Alors, il y avait dans les précédents, il y avait une place du corps. Gridfall également, il y a une partie des histoires de mutation, de transformation dans tous les sens qui sont intéressantes. Mais est-ce que sur le côté RPG, donc côté héroïque, ou sur le côté même espion de Sigma, où c'est pareil, on imagine un peu le caricature de l'espion, mais c'est un univers assez héroïque. Est-ce qu'on a une injonction de faire des corps, de représenter des corps qui soient un peu parfaits, ou est-ce qu'au contraire, on peut aller se permettre d'aller chercher de la diversité?
Honnêtement, le problème n'est pas tellement là. Le problème, c'est... là, je vais vraiment parler de technique, puisque c'est nous, notre principale problématique, elle repose là-dessus. Moi, j'adorerais effectivement qu'on ait, ne serait-ce que même dans les rues, qu'on croise des gens qui soient aussi variés que dans la réalité, en termes de taille, en termes de volume, en termes de forme de corps, en termes d'âge aussi. Il se trouve que on n'a pas cette possibilité-là, pour la simple et bonne raison que chaque corps, nous, donc on fait des jeux en 3D, chaque corps est en fait un squelette d'animation, et que pour des raisons de production, on ne peut pas produire autant d'animations qu'il ne pourrait y avoir de squelettes dans la réalité. Et du coup, au final, on a un corps masculin et un corps féminin. Et ces deux corps-là, alors qu'on peut par contre effectivement faire vieillir les personnages, etc., mais ils sont finalement relativement standards, et on essaie de les rendre relativement neutres parce que on ne pourra pas en fait effectivement avoir des vraies variétés de squelettes et d'animations qui devraient correspondre effectivement à tous les âges, tous les formats de corps de la vie. On n'a pas d'enfants, par exemple, dans le jeu. On n'a pas de personnage enfant. Et pas parce qu'on ne veut pas que les gens puissent taper les enfants ou pas. C'est juste parce qu'un enfant, c'est un squelette qui est complètement différent que celui d'un adulte. La tête est beaucoup plus grosse, etc. Donc ça demanderait des animations qui sont spécifiques et qu'on n'a pas les moyens. On a 5 animateurs dans l'équipe de jeu. On a 380 personnages dans le jeu. Je parle de personnages humains parce qu'on a aussi des monstres qui ne sont pas comptés dans ces 380 personnages. On a des monstres complètement bizarres, mais on a aussi des animaux, etc. Donc tout ça doit être animé. On a une partie de motion capture, mais on ne peut pas faire de la motion capture non plus pour tout, et surtout ça, c'est aussi un coût très très élevé. Donc au final, on est restreint bêtement par du budget et de la technique. Ce que je trouve dommage, j'adorerais ne serait-ce que pouvoir avoir du scale sur chaque personnage, avoir des personnages donc un peu plus grands ou un peu plus petits, simplement ça. Mais si je dis ça à mes animateurs, ils m'arrachent un œil et ça se passerait très mal parce que après, en fait, tout ce qui va être cadrage de caméra, tout ce qui va être positionnement, tout ce qui va être notamment positionnement dans la mesure où on a du combat dans le jeu, il faut que les distances d'armes, etc., de positionnement de personnages les uns par rapport aux autres soient valides tout le temps. Les contacts avec les objets, il faut que si mon personnage dans une scène attrape une bouteille, il n'est pas la main qui traverse la bouteille, etc. Et évidemment, si j'ai modifié la taille de mon personnage, je risque de traverser la bouteille ou d'attraper la bouteille comme ça et de réussir quand même à la soulever. Enfin bref, des choses qui vont être assez vilaines. Et du coup, pour éviter tout ça, on a du coup pris le parti pris d'avoir un corps qui est effectivement très standardisé.
Ouais, nous, sur Sigma Theory, en fait, qui est un jeu d'espionnage, on voulait vraiment faire un comme si c'était un film ou une série avec des espions. Donc, on décide de faire. Nous, on n'a pas les contraintes de la 3D, c'est pour ça que des fois, j'aime ne pas faire des jeux en 3D, mais des fois, j'ai vraiment envie d'en faire. Parce que nous, on est plus. Visuellement, c'est un peu plus comme une bande dessinée, même si on atteint un tout petit peu de 3D, et du coup. Pour Sigma Theory, on s'est dit, allez, on va faire 50 espions différents que le joueur pourra créer une équipe de 4. Et donc, du coup, on a 10 nationalités à représenter et 50 personnages à faire. Et du coup, ça nous permet vraiment d'avoir des personnages très typés, très divers, très différents. Enfin, on a un psychopathe hindou, on a une camionneuse russe. Enfin, on a plein de personnages différents. Et ça donne vraiment plein de couleurs au jeu et chaque partie est vraiment différente et raconte une histoire différente parce que chaque personnage aussi a son propre comportement, ses propres alignements, etc. Et après, on s'est dit, bon, c'est bien 50 personnages, mais pourquoi pas en faire 100 ? Et du coup, on a fait 100 personnages et ça fait qu'on a un jeu avec énormément de personnages avec qui on peut développer des relations et comment dire ? Et ça rend le jeu vraiment vivant, très divers. Et moi j'aime bien. Tout ça, c'est un jeu que j'aurais rêvé pouvoir jouer avant, mais.
Alors, moi, je tiens à préciser, nous, c'est pareil, on n'avait pas la contrainte de la 3D, des personnages en 3D. Je comprends tout à fait les problématiques liées à un jeu en full 3D. Nous, les personnages étaient uniquement illustrés, ils étaient une dizaine, donc on pouvait se permettre de faire vraiment ce qu'on voulait.
Alors juste, par contre, tu vois, sur une des choses dont je suis assez contente et fière qu'on a pu faire sur Technomancer, on a un personnage qui a un bras en moins en fait, qui a été amputé suite. Bon, je ne vais pas vous raconter le scénario parce que c'est un plot assez important de l'histoire. Mais effectivement, là pour le coup, on lui a fait des animations spécifiques pour gérer ça et on a eu envie en fait vraiment. D'avoir une réflexion sur le handicap, sur et c'est un personnage très important, c'est un des compagnons du joueur qui a non seulement un rôle très important dans l'histoire, mais qui en plus combat, etc. Il n'est pas du tout passif en fait dans le jeu, et c'est quelque chose, voilà, sur lequel là on a pu faire un, un développement particulier, réfléchir vraiment autour de ce personnage-là. Mais c'est vrai que ça reste relativement ponctuel et que pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de solution qui nous permette d'avoir autant de variétés qu'il en a dans la réalité. Et d'aborder des thématiques. Alors, on a pu aborder la thématique du handicap. On s'efforce d'avoir toujours des personnages effectivement d'ethnicités différentes, des personnages évidemment de sexe différent, de sexualité différente aussi. Mais c'est vrai que pour l'instant, on reste encore un peu, on va dire, contraint techniquement pour aborder la réelle variété des corps en fait. Et c'est, je pense, quelque chose qu'on retrouve assez dans presque tous les jeux en 3D. Et c'est pas forcément toujours une décision politique. En tout cas, dans notre cas, c'est vraiment pas le cas. C'est essentiellement une décision technique qui nous contraint en fait dans un certain nombre de modèles qui sont effectivement un peu toujours les mêmes.
Mais du coup, tu parlais de tout à l'heure, tu disais qu'il y avait beaucoup de personnages, donc qui étaient principalement basés sur deux archétypes d'animation. Mais tu parlais aussi du fait qu'il y avait beaucoup de monstres, de créatures, d'animaux, etc. De questions, du coup, est-ce que écrire des scènes du jeu qui impliqueraient des personnages vieux, enfants, etc., n'auraient pas justifié d'utiliser, du coup, d'avoir des animations spécifiques comme vous en avez pour des animaux ou des choses comme ça? Et deuxième question, est-ce que il n'y a pas de la même manière qu'on peut acheter certains assets ou certaines choses, des fois pour certaines productions, est-ce que sur l'animation squelettique de personnages, et donc pour permettre une plus grande diversité, il n'y a pas moyen de travailler avec des banques de
alors les banques d'animation,
ou autres,
pour certaines c'est pas si mal que ça, hein, mais bon, après c'est des histoires de format, c'est des histoires de qui sont pas forcément toujours adaptées au projet. Alors après, effectivement, entre choisir d'animer un monstre ou de choisir d'animer un enfant, il se trouve que dans notre jeu, on a aussi besoin d'avoir des choses à combattre, dans la mesure où bon, on combat des enfants moyens, tout ça. Donc on s'est dit que finalement on allait mettre des monstres en fait, et qu'on avait envie en plus d'avoir un monde fantastique avec des créatures et ainsi de suite. Donc oui, c'est un choix à un moment. Il se trouve que dans le cadre de notre budget, de la taille de notre équipe, etc., on a dû faire effectivement prendre une décision, mais qui n'est pas qu'une décision de coût ou ce genre de choses, mais qui est aussi une décision de gameplay. Il se trouve que, bah oui, on avait envie, quand on se promenait dans les paysages de cette île où se passe le jeu, on avait envie de pouvoir croiser des créatures, etc., et que le monde ne soit pas peuplé que d'êtres humains, ou humanoïdes en tout cas, et d'y mettre autre chose. Et effectivement, à partir de ce moment-là, ça demandait d'animer ces choses-là, quoi.
Il me semble qu'il y a une question.
Oui, je suis par là. vous parliez au tout début d'utiliser le corps comme une manette, et vous avez également parlé aussi du handicap. Moi, ma question, elle est, comment est-ce que quand vous utilisez une manette différente, vous envisagez l'accessibilité pour votre jeu, pour les joueurs?
Ah, c'est une bonne question, effectivement. Est-ce que dans votre pratique de la conception du jeu, à tous, vous réfléchissez à la place du corps des joueurs qui vont jouer à votre jeu, et donc notamment effectivement les contrôleurs, est-ce que la possibilité ou pas que ce soit accessible, limiter le nombre de boutons, je ne sais pas, ou des choses comme ça?
En fait, moi, j'ai travaillé pendant 10 ans en tant que designer d'interface pour le web. Donc, je connais un petit peu ces problématiques. Dans le jeu vidéo, c'est un petit peu compliqué techniquement d'avoir un peu ce qu'on a, ce qui s'est beaucoup développé pour le web en termes d'accessibilité, les claviers adaptés, etc. Après, nous, moi, en fait, ayant cette problématique dans la tête, j'essaie toujours de faire des interfaces le plus accessible possible, c'est-à-dire que la plupart de nos jeux se jouent en touchant l'écran ou en bougeant une souris. Et les interfaces aussi sont pensées pour que tout le monde puisse rentrer dans le jeu sans avoir un apprentissage très très long. Donc on ne pense pas les jeux pour qu'ils soient adaptés pour les handicaps, mais la philosophie dans laquelle ils sont développés, c'est pris en compte en fait de base. Donc voilà.
Je dois avouer que nous, on est relativement contraints par les supports. En fait, on travaille donc pour console. Donc avec sur PlayStation et sur Xbox et les contrôleurs qu'on nous fournit sont pas forcément particulièrement pensés effectivement pour les personnes en situation de handicap. Il y a des améliorations qui ont été faites sur les nouveaux contrôleurs effectivement avec une sorte de touchpad qui est intégré et tout ça et qu'on essaye de prendre en compte dans les contrôles du jeu, mais ça reste relativement limité en fait et c'est pas forcément du coup très adapté, honnêtement, hein, aux personnes en situation de handicap. Je sais qu'après, il y a des projets qui ont été faits qui sont particulièrement passionnants là-dessus, sur même une réflexion, pour proposer une réflexion sur le handicap, notamment des jeux sur le fait d'être aveugle, qui ont été développés, qui sont très intéressants. Mais bon, voilà, on va dire que c'est un peu des projets qui sont très très uniques, qui sont vraiment designés dans cette perspective-là. Mais effectivement, sur du jeu relativement grand public, hélas, souvent, sur console en tout cas, on a assez peu de moyens de s'adresser et d'être certain en plus que ça fonctionne pour les personnes en situation de handicap.
Mais pour le coup, Microsoft a annoncé ou sorti, je ne me rappelle plus, une manette justement adaptée, qui est accessible, qui est assez différente du contrôleur normal. Donc c'est vrai que pour console, je pense que c'est plutôt quelque chose qui est dans les mains du constructeur plutôt que du développeur, de faire des appareils adaptés aux différents handicaps. Voilà. Mais Microsoft, apparemment, il est dessus.
Ouais, alors moi, à titre personnel, c'est un truc sur lequel j'ai eu pas une sorte de révélation, mais où je me suis un peu ouvert ces derniers mois ou ces dernières années au contact de développeurs de jeux indépendants pour qui c'était vachement important et qui ont réussi à me convaincre que ça l'était. Nous, par exemple, quand on a sorti notre dernier jeu l'année dernière, qui est un jeu qui est prévu, qui était pensé pour jouer avec un contrôleur, un pad classique de console, alors on essaye de faire des contrôles, j'essaye toujours de faire des contrôles le plus simple possible, d'utiliser le moins de boutons, voilà, mais après, à partir d'une certaine richesse de jeu et de gameplay, ça nécessite forcément d'utiliser un certain nombre de boutons minimum, même si on essaye de rendre les actions contextuelles et d'en utiliser le moins possible. Et en fait, le jeu avait vraiment été pensé pour un contrôleur classique, et pour les gens qui n'ont pas de contrôleur, on avait dit clavier. Voilà, clavier. Et dans ma tête, c'était quasiment un sacrilège de faire un contrôle à la souris. Alors juste pour vous dire, en fait, moi, le jeu qu'on a sorti en l'occurrence, c'était un shoot'em up, donc un jeu où on dirige un petit vaisseau, on tire sur des ennemis. Et moi, les shoot'em up qu'on joue à la souris, quand j'y joue, j'ai l'impression de déplacer un curseur à l'écran et pas un vaisseau ou un avatar ou quoi que ce soit. Et j'ai horreur de ça. Je trouve ça insupportable. Il y en a plein, hein, des shmups qui se jouent à la souris. Je trouve ça nul. Et en fait, on m'a demandé, quand le jeu est sorti, il y a plein de gens qui ont réclamé à corps et à cri un contrôle souris parce que, ah, mais c'est n'importe quoi, il n'y a pas de contrôle souris, c'est un scandale, remboursez. Voilà, remboursez-vous, il n'y a pas de problème. Et en fait, j'ai fini par accepter de le faire, le contrôle souris. Le jour où j'ai pris conscience que oui, mais en fait, il y a des gens qui, c'est pas que c'est un sacrilège pour eux d'utiliser une manette ou quoi, c'est pas qu'ils en veulent pas, c'est juste qu'ils peuvent pas. Et alors que pourtant, je côtoie avec des personnes, mon beau-père n'a qu'un seul bras, donc je connais des gens, mais alors, je connais pas forcément des gens joueurs qui sont en situation de handicap. Mais à cette occasion, j'ai vraiment pris conscience de l'utilité et de la justification de cette réflexion. Et j'ai du coup pas mal évolué sur ce truc-là en mettant mes petites préférences de côté, en me disant « Ok, effectivement, même si moi je ne l'envisage pas comme ça, il faut quand même que je donne l'option. » À titre beaucoup plus anecdotique, notre premier jeu, il y avait des gros problèmes avec les personnes qui étaient atteintes de daltonisme. Et dans notre deuxième jeu, normalement, il n'y a plus trop de problèmes parce qu'il y a un des graphistes de l'équipe qui est daltonien. Du coup, c'était un bon indicateur que c'était possible ou pas ce qu'on proposait. Mais vraiment pour les contrôles et la réflexion et l'inclusion de contrôles plus accessibles, c'est un truc, moi j'y suis venu assez récemment, enfin en gros courant d'année dernière quoi. J'ai pris conscience de l'importance que ça avait.
D'autres questions ?
Oui, bonjour. En fait, là, vous parliez notamment des avatars, enfin des corps des PNJ dans les jeux de rôle, etc. Vous disiez que vous étiez limité. Quand je pense à un jeu comme Binding of Isaac, qui génère ses levels en live, enfin en cours de partie, est-ce qu'on pourrait imaginer, pareil, le même type de programmation pour générer des corps de PNJ dans un jeu? Est-ce que ça poserait un problème sur la narration, peut-être, plutôt? Est-ce que deux joueurs pourraient jouer au même jeu, mais l'un, le roi, serait un grand blond et l'autre un petit brun, ou je ne sais pas?
Animation squelettique procédurale, c'est
voilà,
parti.
Alors, moi, je ne suis pas programmeur, hein, donc je veux bien... C'est un des rares métiers que je n'ai pas pratiqué dans le jeu vidéo. Je ne suis pas forcément la meilleure personne pour répondre là-dessus techniquement. Théoriquement, c'est possible, mais le problème, c'est que derrière, c'est un travail effectivement qui demanderait un développement ultra, ultra, ultra spécifique pour justement effectivement pouvoir faire du procédural sur de l'animation, quasiment plus que sur les assemblages de corps, c'est-à-dire que effectivement avoir du scale dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire changer la taille d'un personnage sur un certain nombre de variables établies. C'est quelque chose qui est envisageable, mais alors, avec le risque de se retrouver avec des personnages absolument hideux ou très très bizarres, parce que les paramètres qu'auront été générés de manière aléatoire seront bizarres ou pas exactement bien calibrés. Et encore une fois, avec effectivement le risque d'avoir des positionnements dans le jeu, des personnages des uns par rapport aux autres, des personnages par rapport aux objets qui pourraient être complètement faux ou problématiques. De même avec les équipements, en fait. Si on a un personnage très grand qui doit équiper une épée, il faut qu'elle se positionne convenablement dans sa main, il faut qu'elle soit positionnée au bon endroit, et il va falloir que par rapport à un autre personnage avec qui il peut se battre, par exemple, comme il est très grand, il a probablement des bras plus longs, donc il faudrait effectivement non seulement avoir un côté procédural sur les animations, mais aussi sur le positionnement des personnages qui devraient s'adapter les uns par rapport aux autres. Donc encore une fois, en théorie, c'est possible. En termes de développement, c'est un chantier monstrueux, et c'est pas très très étonnant que même des studios énormes et fort réputés n'ont pas fait, parce que c'est vraiment un travail très 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 particulier, quoi. C'est de la recherche à ce stade. C'est pas quelque chose qui existe pour l'instant, en tout cas.
Non. En fait, les progrès récents dans tout ce qui est intelligence artificielle donnent un peu des pistes pour répondre à cette problématique où, en fait, le réseau neuronal va apprendre les mouvements des humains, enfin des animaux qu'on lui donne, et ensuite pouvoir les retranscrire sur des squelettes 3D utilisés dans les jeux. Mais voilà, le problème avec les réseaux neuronaux encore aujourd'hui, c'est que c'est très lent à apprendre, c'est très lent à donner un résultat. Mais par contre, c'est vers ça qu'on va aller, et avoir vraiment à un moment donné des personnages, des corps de différentes tailles, différents âges, peu importe, qui vont pouvoir, qu'on n'aura plus à animer à la main un par un, et qui permettra justement d'aller plus vite dans cette production.
Vivement demain, quoi.
Voilà.
Alors, en fait, effectivement, c'est vraiment un problème technique. Et d'ampleur de travail, en fait, ça existe. Enfin, à mon sens, ça existe déjà un peu. Les très très gros studios font déjà ont des variations morphologiques qui peuvent être importantes. Enfin, ça dépend des jeux, mais on parle vraiment des très 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 gros jeux. Enfin, voilà, il y a des personnages un peu obèses dans The Witcher. Il y a.
Mais ils ne bougent pas comme des personnes obèses.
Ouais, ouais,
bougent
non,
comme
non,
des
non,
personnes
mais c'est...
normales qui. Enfin, un autre volume, c'est tous les mouvements de quelqu'un qui, par exemple, qui va être effectivement être très gros, vont pas être les mêmes que celui d'un gaillard gaulé comme une crevette. Et il se trouve que là, c'est les mêmes.
Il y a quand même des mouvements dans les assez vieux GTA, dans San Andreas. Dans San Andreas, en fait, tu pouvais... manger au fast-food régulièrement et du coup avoir un avatar qui grossit, et ça finissait par changer sa démarche et ses postures et tout. Donc c'est pas fait à une échelle généralisée sur et tous les personnages et du coup qui permettrait de générer procéduralement une population diverse et qui puisse interagir avec tout le monde. Maintenant, pour des passants dans la rue qui vont ne faire que marcher et croiser le joueur, c'est déjà beaucoup plus envisageable. Mais comme Jeanne disait, en fait, le truc, c'est qu'à créer des systèmes comme ça qui génèrent des combinaisons un peu à la volée, et, entre guillemets, aléatoirement, il faut penser No Man's Sky. Quoi. No Man's Sky, oui, ça génère des milliards d'aliens possibles, dont l'énorme majorité sont moches à crever, quoi, et qui bougent ultra bizarrement. Parce que effectivement, No Man's Sky, c'est une toute petite équipe. Hein. Ils étaient une vingtaine ou une trentaine à développer ce truc-là. Et du coup, il n'y a pas toutes les ramifications qu'il devrait y avoir pour faire qu'on a des personnages variés, réalistes, interactifs avec le reste du décor. Effectivement, et pour avoir ce type de richesse et cette uniformité dans tout le jeu, il faudrait utiliser des techniques comme celles dont parlait Mickaël, qui permettront d'automatiser et de faire que la machine prend le relais et fait un peu le travail à la main, ou adapte les animations qui ont été faites à la main pour différentes morphologies ou différents trucs, même s'il y a un humain qui contrôle un peu ou qui fait de la motion capture, mais que la machine apprenne à modifier une démarche, à modifier des mouvements en fonction de la taille, du poids. Enfin, on va y venir, hein, mais on n'y est pas encore tout à fait.
Par rapport à la gestion de la morphologie, il y a un jeu qui fait ça très bien, qui est sorti récemment, qui s'appelle Scum, qui est un jeu de survie où on crée son personnage, etc. Et en fait, ce jeu simule tout ce qu'on va ingérer, tout ce qu'on va manger. Enfin, on peut voir tout l'état de la digestion de chaque aliment qu'on a mangé, les calories que ça nous apporte, etc. Et en fait, notre personnage peut devenir gros, ou peut devenir très maigre, ou il peut devenir très musclé. Et en fait, ça simule vraiment tout. Donc après, notre démarche va être différente, notre vitesse, les hauteurs qu'on va pouvoir sauter. Et je trouve que c'est très intéressant. Et d'ailleurs, ça gère aussi vraiment la digestion jusqu'au bout. Donc, donc des fois, on s'arrête en plein combat, faut faire caca. Mais voilà, c'est vraiment ce qui a fait un peu la différence de ce jeu, c'est à quel point ils sont allés très loin dans la gestion de ce qui se passe dans notre corps, en fait.
Mais c'est sur un personnage, là, pour le coup, pour reprendre ce que disait
Jeanne. En fait, c'est tous les personnages dans le jeu sont des joueurs, en fait. Donc, il y a jusqu'à à peu près 100 joueurs par serveur. Donc, c'est déjà assez intéressant.
Ça reste, c'est le personnage joueur, en fait, qui est prévu pour avoir ces modifications-là.
Ce que je trouve assez effrayant, justement, par rapport aux enfants, c'est que finalement, dans à peu près tous les jeux AAA, on se balade dans des villes, il n'y a aucun enfant. Et ça fait un peu peur. Et je trouve que ça me sort de l'immersion, en fait. Ça me sort de me dire, ils peuvent mettre autant de détails qu'ils veulent dans les fenêtres, dans les personnages, etc. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'enfants, tout de suite, on sent que tout est plastique, en fait.
Oui, on est dans une espèce de monde étrange.
Voilà. On a essayé de le justifier dans notre univers, en fait.
Pour une dernière question. Alors,
comme on ne pouvait pas avoir d'enfants, on l'a justifié dans l'histoire, le fait qu'il n'y ait pas d'enfants.
Il vaut mieux parce que la plupart, ils ne justifient pas et c'est vrai que c'est bizarre.
Non, pas de dernière question. Tu avais une réflexion
Sur les enfants?
Oui.
Sur les enfants dans les jeux. Ouais, je pense que, par contre, pour les enfants, il y a une vraie problématique sur les histoires de PEGI, de certification. Parce que les mondes ouverts, où on peut faire un peu ce qu'on veut, le fait de pouvoir taper sur un enfant, c'est un vrai problème. Enfin, c'est tout de suite, tu passes dans la catégorie ultra, mature, machin, hardcore. Enfin, voilà, quoi. Du coup, pour la problématique des enfants, je pense qu'au-delà du truc technique, il y a aussi le côté, on ne veut pas être interdit en Australie ou en Allemagne, où ils sont ultra...
Dans les jeux qui ont intégré des enfants comme Skyrim ou même comme dans Witcher, il y a des enfants aussi. Les enfants sont immunisés à tout, en fait. Ils sont absolument intouchables, etc. Ce qui fait qu'on peut leur taper dessus, mais il ne se passe rien, quoi. Donc, justement pour ces raisons-là.
C'est vrai qu'en plus de la problématique technique, la problématique de commercialisation finalement des jeux impose beaucoup de choses au corps, que ce soit dans la sexualité, dans la représentation des différents corts, de ce qu'on peut frapper ou pas, ce qui peut leur arriver. C'est vrai que ça contraint beaucoup et ça empêche le médium finalement d'explorer de manière très libre.
Ça change ça quand même, c'est en train de changer en tout cas.
Nous, on a cette problématique en fait par rapport à notre jeu Signatory qui représente 10 nations différentes, dont la plupart des superpuissances. Et par exemple, on est allé à la GDC cette année pour présenter le jeu et on a beaucoup d'éditeurs chinois qui sont venus nous voir parce qu'ils étaient intéressés par le concept. Mais tous m'ont dit, si vous voulez sortir ce jeu en Chine, il faut retirer tous les personnages chinois et il ne faut pas représenter la Chine sur la carte du monde.
Voilà. Ça fait un gros trou quand voilà. même, hein. C'est emmerdant.
Voilà. Donc on n'a même pas, enfin parce qu'en fait ils sont un peu en train de coloniser à droite à gauche. Enfin bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et donc on n'a pas le droit de représenter les frontières de la Chine et surtout pas des personnages politiques. Et c'est pareil dans notre jeu, on a un scénario qui implique Poutine. Donc en fait là, donc Poutine serait représenté dans le jeu, mais on se pose une grosse question, c'est est-ce qu'on a le droit en fait ? Est-ce qu'on a le droit ? Et peut-être qu'on a le droit. Peut-être que personne ne va rien nous dire, mais est-ce que ça ne va pas avoir des répercussions indirectes ?
Voilà. Tu vas avoir des hommes en noir qui vont frapper à ta porte.
Voilà. Des gros Russes.
Il va manger du polonium, c'est tout ?
Bah déjà, tu risques d'avoir des.
Peut-être me décaler un peu, parce que tu
des joueurs,
un peu dangereux.
Des joueurs russes énervés sur ton forum Steam. Mais,
Pardon ?
Tu risques d'avoir des joueurs russes énervés sur tes forums Steam. Mais,
Je sais pas, mais voilà. Parce que c'est pareil, en Chine, il y a énormément de problèmes de censure en ce moment pour les jeux vidéo. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il n'y a aucun jeu pratiquement qui sort en Chine parce qu'ils ont mis en place un comité de censure. Ça fait depuis quelques mois qu'aucun jeu sort, même les jeux de Tencent, qui est le plus gros éditeur chinois, ne peut pas sortir ces jeux. Nous, ça nous fait poser des questions parce que représenter des personnages qui sont réels ou fictifs, mais inspirés du réel, parce qu'on a aussi, par exemple, des groupes terroristes qui peuvent être inspirés de Al-Qaïda ou de ce genre de choses. Déjà, on ne mettra jamais Al-Qaïda dans notre jeu. On doit changer les noms et pareil, les personnages. La représentation du corps et de la réalité, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de censure invisible dans le jeu vidéo, ou par exemple dans un film, on va pouvoir faire un biopic sur n'importe quel personnage qui a existé, un politique ou peu importe. Dans le jeu vidéo, j'ai l'impression que...
Qui a existé, mais qui est encore vivant, et si tu tiens des propos qui sont potentiellement diffamatoires, tu t'exposes, alors tu peux le faire, hein, mais tu t'exposes à un procès et à des grosses, grosses emmerdes, quoi. Dans le cinéma, comme dans la littérature ou dans n'importe quoi, potentiellement, effectivement, parler des gens morts, tu peux. Moi, je sais que j'ai eu la problématique, quand je travaillais sur Splinter Cell, on avait fait un Splinter Cell sur Engage. Ils avaient voulu faire un scénario ça se passait à Cuba et en gros, t'avais Fidel Castro qui se faisait assassiner. Alors je précise qu'à l'époque il était encore en vie, hein, c'était il y a 12 ans à peu près, 12-13 ans. Et donc ils annonçaient en fait la mort de Fidel Castro et du coup, bouleversement politique sur l'île et on se retrouvait, donc le personnage se retrouvait au milieu de tout ça. Et je me souviens d'appeler les juristes parce que chez Ubisoft et Gameloft, il y a évidemment un service juridique assez important et de leur dire mais vous êtes sûr de votre coup là parce que on annonce quand même la mort d'un homme politique comme quoi l'île était maintenant aux mains des cartels de la drogue, etc. Enfin, vous êtes vraiment sûr que ça pose pas un problème ? Et alors ils sont revenus vers moi au bout de 15 jours en disant « Ah oui, c'est vrai, ça pose un problème. Alors du coup, ça va se passer sur Cabu. Et le personnage principal s'appellera Fadil Kistro. » c'est un peu gros, là, quand même. Mais on n'utilisait plus les vrais noms. C'était bon, il n'y a plus de problème.
Bon, ce sera le mot de la fin, parce qu'il est l'heure de rendre la scène. Merci à tous d'être venus. Merci à vous pour vos interventions. Et à très bientôt à tout le monde.